Vous écoutez On lit pour vous.
Jouer pour déjouer les fraudes financières. Un texte de Marie-Ève Fournier paru le 13 avril 2024 dans La Presse. C'est facile et même tentant de blâmer les victimes de fraudes financières en présumant qu'elles ont été naïves ou imprudentes. Mais ceux qui ont perdu des milliers de dollars vous diront que ces préjugés font fi du contexte dans lequel les arnaques se produisent, du haut degré de sophistication des méthodes utilisées et de la psychologie humaine. Voici une recette assez efficace pour prendre de mauvaises décisions. Une bonne dose de pression, à peu près autant de stress et deux ou trois émotions désagréables. Mélangez le tout et vous pourriez donner votre NIP à un fraudeur au téléphone ou même aller lui chercher une grosse pile de 20 $ au guichet automatique. Ça arrive tous les jours. Une variante. L'escroc au bout du fil réussit à mettre sa victime dans un tel climat de confiance qu'elle finit par le remercier pour son aide, pendant que le compte de banque se vide. Il n'existe aucun antidote à la fraude qui puisse être efficace à 100%, mais la sensibilisation et l'information peuvent drôlement nuire aux efforts des voyous pour s'enrichir sur notre dos. Un nouveau jeu immersif créé par l'Agence du revenu du Canada, ARC, permet justement d'apprendre à aiguiser ses réflexes et à identifier les véritables communications en provenance du gouvernement. Dans les prochaines semaines, il fera la tournée de centres commerciaux un peu partout au pays. Je suis allé le tester au beau milieu de la place Vertu, dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Ce n'est pas tous les jours que l'ARC fait preuve d'autant de créativité pour sensibiliser la population à un fléau. Le concept qui s'inspire des populaires jeux d'évasion a donc piqué ma curiosité. Juste avant que je ne pénètre à l'intérieur de la grosse boîte qui ressemble à un conteneur, la ministre du Revenu national, Marie-Claude Bibeau, avait fait l'expérience. En sortant, après 9 minutes, on obtient sa note. On m'a donné 87 %. Mon équipe pensait que j'aurais juste 70 %. Alors c'est bon, m'a confié l'élu dans un grand éclat de rire. Le jeu est très réaliste. Une fois dans la cuisine et dans le salon, on reçoit des textos, des courriels et des appels téléphoniques. Ne manque que les enfants qui se chicanent et le son de la télévision. Chaque fois, il faut déterminer assez rapidement si les messages sont légitimes ou non. Il faut aussi évaluer l'authenticité de lettres signées par l'ARC. Dans la vraie vie, on est parfois bousculé par le temps, on est moyennement attentif. Alors, dans le jeu, pour simuler cet état d'esprit, le compteur roule. Le temps pour prendre des décisions est limité. En état d'hypervigilance, je cherchais bien sûr les indices évidents qui m'auraient permis de reconnaître les messages frauduleux, croyant que ce serait somme toute assez facile. Mais non. En sortant de la fausse maison, on m'a transmis mon résultat, 80%, avec quelques explications et des conseils. Un appel légitime m'a paru louche, ce qui est moins dangereux que l'inverse, ai-je pensé pour me consoler. J'ai aussi eu du mal à identifier les vrais courriels de l'ARC. Avouez qu'il est facile de perdre le fil et de ne plus savoir comment communique chacune des organisations. Un jour, on nous dit que le gouvernement n'envoie jamais de textos. Le lendemain, Revenu Québec nous annonce qu'il utilisera cette méthode. La logique veut qu'on se méfie au plus haut point de tout message contenant des fautes de français. Pourtant, deux personnes m'ont récemment raconté qu'elles avaient ignoré des notifications mal écrites qui se sont avérées authentiques. On ne nous facilite pas trop la vie, disons. Ce qui m'inquiète particulièrement dans toutes ces histoires de fraude qui font les manchettes, ce sont les cas où les personnes jurent n'avoir cliqué sur rien ni parlé à personne. Malgré tout, des milliers de dollars se sont évaporés de leur compte de banque. La CBC rapportait il y a quelques jours que 140 clients de la Banque de Montréal, BMO, se seraient fait voler 1 500 000 $ au moyen de virements frauduleux à partir de leur compte bancaire ou de leur marge de crédit. Ils prévoient poursuivre collectivement la banque qui refuse de les rembourser. Les virements, selon la BMO, ont été faits non seulement avec le bon mot de passe, mais aussi à partir de l'ordinateur des victimes, selon l'adresse IP. Nos enquêtes montrent que le client a partagé, sans le savoir, des renseignements personnels ou y a donné accès, a dit la BMO à la CBC. Mais un enquêteur en cybercriminalité de la police de Toronto croit que les appareils des clients touchés ont été infectés à leur insu par un logiciel malveillant capable de recueillir à distance leur mot de passe et leur adresse IP. Y a-t-il moyen de se prémunir contre ça et contre tous les autres progrès technologiques? Comment prouver son innocence? Quelle est la responsabilité des banques? Que fait le gouvernement pour nous protéger? Hélas, le jeu de l'ARC ne répond pas à ces questions complexes qui devront, plus tôt que tard, être prises davantage au sérieux. L'an dernier, les fraudes ont privé 42 000 Canadiens de 569 millions de dollars. C'était « Jouer pour déjouer les fraudes financières », un texte de Marie-Ève Fournier paru le 13 avril 2024 dans La Presse.
Et si l'évolution nous menait au dad bod? Un texte d'Ian McMahon du Washington Post paru le 9 juillet 2024 dans Le Devoir. Et si l'évolution nous menait au dad bod, corps de père? Au cours de l'évolution humaine, une baisse de la testostérone a pu aider les hommes à s'adapter et à s'impliquer davantage dans la vie de leurs enfants, explique Lee Gettler, anthropologue qui a étudié la science de l'évolution du corps des hommes. Mais la baisse de la testostérone peut aussi entraîner un physique plus mou, moins tonique et plus bedonnant, autrement dit un corps de père. Les caractéristiques biologiques qui étaient bénéfiques dans les environnements dans lesquels nous vivions, il y a des centaines de milliers ou des millions d'années, sont aujourd'hui mal adaptées à certains aspects de notre environnement, explique M. Gettler, directeur du laboratoire Hormones, Santé et Comportement Humain de l'Université de Notre-Dame. En d'autres termes, la baisse de la testostérone a aidé les premiers chasseurs-cueilleurs à devenir de meilleurs pères, mais à une époque où la vie impliquait beaucoup d'activités physiques et une nourriture peu abondante. Le message important à faire passer aux pères est qu'ils doivent continuer à faire de leur mieux pour prendre soin de leur corps, explique Gettler. C'est difficile quand on doit essayer de dormir suffisamment, de faire de l'exercice et de ne pas finir les croquettes de poulet dans l'assiette de son enfant au restaurant, même si on ne veut pas les gaspiller. Dans une étude menée par Gettler et ses collègues aux Philippines, les chercheurs ont constaté que les nouveaux pères de nouveau-nés présentaient en moyenne des baisses très importantes de leur testostérone, ce qui pourrait refléter des changements survenus pendant la grossesse ou immédiatement après la naissance de leur enfant. Les hommes participant à l'étude avaient une vingtaine d'années et leur testostérone a baissé d'environ 25% en moyenne. Il s'agit d'un changement important sur le plan biologique, explique M. Gettler. C'est bien plus que ce qui pourrait être simplement dû au vieillissement qui ne ferait baisser les niveaux de testostérone que de 10% par décennie après la trentaine. Dans un article similaire publié dans Evolution, Medicine and Public Health en 2017, Gettler a utilisé des données de la population américaine pour montrer que les hommes américains qui étaient en couple et vivaient avec des enfants avaient une graisse corporelle nettement plus importante, en particulier autour de la taille, que les hommes célibataires ne vivant pas avec des enfants. La différence de graisse corporelle entre les deux groupes, le phénomène dad bod, s'explique par le niveau de testostérone inférieur du premier, écrit Gettler. En effet, les hommes célibataires du même âge, ne vivant pas avec des bébés ou de jeunes enfants, avaient en moyenne un taux de testostérone plus élevé. Des études ont également montré que le cerveau des hommes change avec la paternité. Quant à la raison pour laquelle ces ancêtres de l'évolution ont imposé aux pères d'aujourd'hui une chute hormonale brutale, M. Gettler explique que c'est une question de priorité. L'idée est que cette transition avec la baisse de la testostérone, qu'il s'agisse de pères oiseaux, de pères humains ou d'autres pères mammifères, contribue à déplacer les priorités de l'effort d'accouplement, de la compétition, vers un partenariat avec la mère pour aider à élever une progéniture exigeante, explique-t-il. Mais l'homme a également évolué, explique M. Gettler, de telle sorte que les pères ont la capacité de s'impliquer de diverses manières qui sont coûteuses en matière de temps, d'énergie et de ressources. Les gens ont souvent moins de temps pour faire de l'exercice lorsqu'ils fondent une famille et s'engagent plus profondément dans la vie professionnelle, généralement à partir de la trentaine. En général, vers l'âge de 30 ans, une personne sédentaire commence à perdre du muscle à raison d'un 0,5% par an, explique Brad Schoenfeld, expert en physiologie musculaire et professeur de sciences de l'exercice au Collège Lehman dans le Bronx. C'est généralement à l'âge où l'on est père de famille que certaines parties du corps commencent à s'affaisser et tout ajout de graisse corporelle dans la zone concernée ne fait qu'accentuer l'effet. Vous écoutez « Et si l'évolution nous menait au dad bod », un texte d'Ian McMahon du Washington Post paru le 9 juillet 2024 dans Le Devoir. Mais il peut aussi s'agir d'un moment important pour mettre l'accent sur la santé et le bien-être des hommes. Je pense qu'il est important que l'exercice ne soit plus axé sur la perte de poids, mais sur l'amélioration de la santé et du bien-être, déclare Shelley Keating, chercheuse en matière d'obésité et maître de conférence à l'École des sciences du mouvement humain et de la nutrition de l'Université du Queensland, en Australie. Pour les pères ou toute autre personne d'ailleurs qui souhaite apporter des changements positifs, il est important de comprendre que la plupart des bienfaits de l'exercice physique sur la santé ne dépendent pas du changement de poids, ajoute Mme Keating. En d'autres termes, il ne s'agit pas uniquement de ce que vous voyez lorsque vous montez sur la balance. Pour éviter ou éliminer le dad bod, il faut faire de l'exercice et adopter un régime alimentaire sain, et avant de commencer, il est conseillé de consulter des professionnels qualifiés. J'aime toujours indiquer qu'il est préférable de consulter un médecin ou un diététicien pour s'assurer qu'aucun groupe alimentaire essentiel n'est supprimé et que les besoins en micronutriments sont satisfaits, explique Mme Keating. Les hommes doivent également être réalistes et ne pas être trop durs envers eux-mêmes. Essayez de faire les choix les plus sains et les meilleurs aussi souvent que vous le pouvez, tout en reconnaissant que vous ne pourrez pas toujours le faire, déclare Craig Garfield, professeur de pédiatrie à l'École de médecine Feinberg de l'Université Northwestern et médecin traitant à l'hôpital pour enfants Lurie de Chicago. Garfield a également fondé la première enquête de santé publique sur les pères pendant la période périnatale. Il ajoute que le plus important est que les nouveaux papas et les nouvelles mamans prennent soin d'eux, car c'est en fin de compte ce qu'il y a de mieux pour le bébé. Pour la plupart des hommes, une heure ou deux d'entraînement musculaire par semaine suffisent à lutter contre la silhouette de papa, affirme Brad Schoenfeld. Exercice pour l'ensemble du corps. Selon M. Schoenfeld, il faut faire travailler tous les principaux muscles du corps au cours d'une même séance d'entraînement, de préférence avec des exercices impliquant plusieurs articulations. Ces exercices comprennent les pompes, les squats, les tractions, les fentes et les extensions au-dessus de la tête. Effectuez au moins un exercice de compression des jambes, par exemple les squats, un exercice de traction du haut du corps, par exemple les tractions, et un exercice de poussée du haut du corps, par exemple le développé couché, par semaine. Vous pouvez utiliser des machines ou des poids libres. Visez un minimum de 4 séries hebdomadaires par groupe musculaire. Entraînement cardiovasculaire. Lorsque l'objectif est d'être en bonne santé et de perdre de la graisse, l'exercice à un niveau égal ou même inférieur aux recommandations actuelles en matière d'activité physique, à savoir de 150 à 300 minutes par semaine d'exercice d'intensité modérée ou de 75 à 150 minutes par semaine d'exercice d'intensité vigoureuse, peut aider à faire perdre de la graisse abdominale, indique Mme Keating. Pour perdre du poids en faisant uniquement de l'exercice aérobique, il est recommandé de faire plus de 60 minutes d'exercice au moins 5 jours par semaine. Entraînement par manque de temps. Lorsqu'il est difficile de trouver le temps de faire de l'exercice, les programmes d'entraînement par intervalle à haute intensité, HIIT, et à faible volume permettent une séance d'exercice plus courte associée à un même gain, voire un gain supérieur. Toutefois, avant de commencer un programme HIIT, les personnes âgées et les personnes présentant un risque de maladie cardiovasculaire, y compris celles qui commencent à faire de l'exercice après une période d'inactivité, doivent obtenir une autorisation médicale. La nutrition. En général, pour perdre du poids, il faut manger environ 500 calories de moins que la normale par jour, indique Mme Keating. Le régime doit être axé sur les aliments complets et l'amélioration de la qualité de l'alimentation. Comme pour l'exercice physique, la durabilité du régime est essentielle pour une perte de poids à long terme, dit-elle. L'amélioration de la qualité de votre alimentation peut améliorer votre santé cardiaque, même en l'absence de perte de poids. C'était « Et si l'évolution nous menait au dad bod ?» un texte d'Ian McMahon du Washington Post paru le 9 juillet 2024 dans Le Devoir.
Aimer son pays, une œuvre de passion et de raison. Un texte d'Étienne Haché, paru le 29 janvier 2023 dans Le Franco, en Alberta. Me tromperais-je en disant que c'est devenu un peu étrange aujourd'hui d'aimer son pays? Nationalisme, cosmopolitisme, mondialisation, voire le patriotisme aveugle, tous tendent, chacun à leur façon, de nous faire perdre de vue l'essentiel, l'amour du pays. L'amour pour sa patrie, Jean-Jacques Rousseau l'a exprimé avec beaucoup de sincérité, de vigueur et de sensibilité romantique dans ses Considérations sur le gouvernement de Pologne, 1772. Selon lui, c'est l'amour du pays natal qui rend les hommes vertueux. Tout vrai républicain suça avec le lait de sa mère l'amour de sa patrie, c'est-à-dire des lois et de la liberté. Cet amour fait toute son existence. J'aurais beau, pour ma part, continuer de voyager, trouver dans les terres d'Europe un second chez moi, je ressens et comprends mieux maintenant ce lien invisible qui unissait les cœurs de grands écrivains comme Chateaubriand et Lamartine à leur pays natal, ainsi que le désir d'y retourner après leur mort. Aimer son pays. En France, j'entends souvent certaines personnalités déclarer qu'elles sont patriotes, qu'elles aiment leur pays, voire jalousement pour certains, comme une partie d'elles-mêmes. Ironie du sort, je suis, pour ma part, à plusieurs milliers de kilomètres de mon cher et bien-aimé pays, le Canada. Aimer son pays prend alors pour moi une tout autre dimension. J'aime la France, il n'y a aucun doute. Mais je n'ai jamais cessé d'aimer mon pays de naissance pour ce qu'il m'a donné et par ce qu'il me permet toujours d'espérer. Espérer quoi? C'est mon pays qui me donne à vivre et qui nourrit pour une bonne part mon imagination et ma pensée. Aimer son pays, une aventure spirituelle. Je l'aimerai toujours, ce pays. Seulement, en retour de sa si grande générosité, Je me vois souvent dans l'impuissance de faire quoi que ce soit en retour pour son développement et son évolution. Oui, mon pays, celui qui m'offre tant, se transforme et évolue sans moi. Qui sait, je navigue peut-être ici entre rêve, lâcheté et égoïsme. Mais je sais aussi depuis longtemps déjà qu'il ne faut pas jouer les moralistes et ignorer les circonstances des uns et des autres. N'oublions jamais qu'il est bien plus facile de critiquer les expatriés sous prétexte que le peuple travaille et lutte vaillamment pour que le pays grandisse et s'épanouisse. Mais la survivance, l'attachement au bien commun et la solidarité qu'implique le patriotisme renvoient également à une aventure de l'esprit et de la conscience. Un combat à la fois pour sa propre existence, celle d'autrui, les nôtres, et pour celle de son pays. À vrai dire, les trois ne font plus qu'un, car unis par des valeurs existentielles communes. D'autre part, Montesquieu n'a-t-il pas raison, lui qui affirme « Si je savais quelque chose qui me fût utile et qui fût préjudiciable à ma famille, je la regretterais de mon esprit. Si je savais quelque chose utile à ma famille et qui ne le fût pas à ma patrie, je chercherais à l'oublier. Si je savais quelque chose utile à ma patrie et qui fût préjudiciable à l'Europe, ou bien qu'il fût utile à l'Europe et préjudiciable au genre humain, je la regarderais comme un crime. » La sentence me paraît plus que jamais d'actualité. Si cruciale et vitale soit-elle, la défense d'une identité nationale ne doit jamais faire oublier que nous sommes des êtres humains avant d'être de telle ou telle orientation politique ou de telle appartenance culturelle et religieuse qui, elle, n'est que le fruit du hasard. Nous sommes humains et nous devons penser avec notre humanité au lieu de nourrir les différences et les haines. S'il faut savoir être utile à sa nation, comme nous l'a si bien transmis le philosophe canadien de langue anglaise George Parkin Grant, Lament for a Nation, 1965, l'expérience historique montre pourtant que certains savent pleinement s'occuper à la détruire de l'intérieur. Sous diverses injonctions alimentées et nourries par des idées politiques, farfelues pour certaines, terrifiantes pour d'autres, puis désormais par les réseaux sociaux, par les fausses nouvelles, et que sais-je encore, l'amour pour son pays peut vite prendre une tournure tout à fait inattendue. Le danger d'enfermement ou les œillères. En juin 1978, lors de la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de Harvard, l'écrivain et dissident russe Alexandre Soljenitsyn n'hésita pas un seul instant. « Si l'on me demande si je veux proposer à mon pays, à titre de modèle, l'Occident tel qu'il est aujourd'hui, je devrais répondre avec franchise. Non, je ne puis recommander votre société comme idéale pour la transformation de la nôtre. Le déclin du courage. Je sais ici toute la difficulté de la référence à Soljenitsyn. » Alors même que la Russie, sous l'emprise d'une dictature et d'un nationalisme haineux et sanglant, menace la survie de l'Ukraine et même celle des autres nations européennes. Je n'ai pas cité Soljenitsyn pour une condamnation post-mortem, mais bel et bien pour relever la contradiction qui nous guette à un moment ou à un autre. Je constate qu'aimer son pays, faire monde commun, ce n'est pas tout à fait aimer une fraction de la population, les amis, à l'exclusion des autres, à cause de leur orientation sexuelle, par exemple, ni seulement les femmes et les hommes de telle ou telle culture ou confession, encore moins un parti politique. Chose d'autant plus vraie pour le Canada qui se définit de plus en plus comme une mosaïque culturelle. Ainsi donc, aimer son pays, c'est d'abord aimer un tout global et uni. Cela n'est possible qu'en s'élevant au-dessus des contradictions et des divergences. Le moyen d'y parvenir repose notamment sur l'éducation, la conscience historique, la culture de l'hospitalité, la tolérance, l'ouverture aux autres, la pensée critique, argumentative, dialogique, l'exercice du jugement. Bref, tout ce qui permet de se construire comme citoyen au plein sens du terme afin de coopérer au sein d'un monde commun de référence partagée, un monde toujours plus ancien que nous. La critique par Soljenitsyne de l'Occident, et tout particulièrement de l'Amérique, à laquelle j'ai prêté attention, sera relayée en quelque sorte par le philosophe américain Alan Bloom en 1987 dans « L'âme désarmée ». Dans cet ouvrage assez dur et sévère, Bloom déplore justement le déclin de la transmission à la jeunesse des grands principes historiques, spirituels et culturels qui ont fondé les États-Unis d'Amérique au profit d'une culture libérale de masse. C'est comme s'il disait que pour permettre à un citoyen d'aimer son pays, sa patrie natale, il faut lui permettre d'aimer son peuple. Certes, aimer son propre peuple peut sembler suspect, comme le suggérait Hannah Arendt lors d'un échange épistolaire avec Gershom Scholem sur la judaïté. Il n'en demeure pas moins qu'à cette fin, un détour est nécessaire par les grandes œuvres de culture et par l'histoire. La ruse de la raison. Ce cheminement ne peut être que positif. D'une part, afin de ne jamais s'aveugler, d'autre part, pour renouveler au besoin l'amour de sa patrie. Les avantages qu'on en retire sont d'autant plus importants lorsque le peuple se déchire pour des causes qui ne vont peut-être rien lui apporter. La culture générale nous fait comprendre plus facilement que l'amour du pays passe par l'unité, par un esprit raisonnable, par une volonté de survie, mais surtout par un destin commun. Cette volonté ne se caractérise pas toujours par des mots, mais par des actes qui les transforment, des actes parfois simples qui montrent que nous sommes faits pour vivre ensemble dans la même patrie, peu importe nos différences. Dans son « Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique » 1784, le philosophe Emmanuel Kant formule que l'insociable sociabilité peut conduire bien plus qu'à l'amour de la patrie, à savoir à une société des nations réglée constitutionnellement par le droit et la justice. Ce moment est comme la synthèse de l'amitié politique des anciens, société fermée, et de la théorie moderne du contrat, société ouverte. C'était « Aimer son pays », une œuvre de passion et de raison. Un texte d'Étienne Haché paru le 29 janvier 2023 dans Le Franco, en Alberta.